Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Les grandes villes africaines font face à un défi urgent: adapter leur urbanisme aux effets de plus en plus visibles du changement climatique. Inondations, vagues de chaleur, pénurie d'eau, érosion côtière, comment les métropoles du continent résistent-elles? Quelles solutions concrètes, parfois inspirées de la nature, émergent? À Dakar, comme ailleurs, citoyens, ONG et secteurs privés s'activent pour bâtir des villes durables. Et si les projets pilotes du Sénégal devenaient des modèles pour toute l'Afrique? Aujourd'hui, cap donc sur les stratégies, les acteurs et les leçons d'avenir. Avec nous, notre confrère émérite Ibrahim Diaye, acteur également dans le développement durable. Toujours un plaisir de vous accueillir, Ibrahim.
Bonjour Ababacar et bonjour à tous. Le plaisir est partagé.
Et justement, par rapport à ce plaisir, mais quand même des inquiétudes, dans le vif du sujet aujourd'hui, quelle stratégie d'adaptation, selon vous, en tant qu'également journaliste, acteur dans le domaine, les grandes villes africaines mettent-elles en œuvre pour lutter contre les effets du changement climatique, comme les inondations et entre autres également par rapport à la situation actuelle?
Une question pertinente, parce que nous sommes déjà au Sénégal et un peu partout d'ailleurs sur le continent africain, dans la période hivernale, ce qui veut dire qu'il y a des risques d'inondation actuellement. Et d'ailleurs, récemment, à Tambacounda, en tout cas, il y a eu même de grosses pluies, en tout cas, qui ont été notées sur cette partie du Sénégal et qui ont causé beaucoup de dégâts, comme quoi les alertes, devrais dire, sont toujours là. Et pourquoi aujourd'hui, Ababacar, on doit s'adapter? Il y a récemment, ça tombe juste, un rapport de la Banque mondiale qui montre que 70% des gaz à effet de serre sont générés dans les villes, mais les pays à faible revenu, y compris la majeure partie de l'Afrique, ont contribué à moins de 0,2% sur ce total-là que je viens de dire, 70, c'est-à-dire les 70% qui sont générés des gaz à effet de serre dans les villes. Ce qui veut dire qu'il y a urgence, qu'il y a lieu, en tout cas nécessité, de s'adapter par rapport au changement climatique qui touche de plus en plus le continent africain. Mais justement, l'un des fils conducteurs, en tout cas, souvent exposé lors des rencontres internationales et même voire au plan continental ou local, c'est les CDN, les contributions déterminées au niveau national, avec souvent des montants, disons, qui sont prévus dans le but de financer l'adaptation des villes, l'adaptation des pays qui sont concernés. Il y a des efforts qui sont réalisés de la part de certains pays, comme le Sénégal, pour s'adapter, notamment avec des plans pour lutter contre l'érosion côtière, pour permettre aux villes de s'adapter. Mais force est de constater que malgré les efforts qui sont consentis par les villes africaines, ces villes-là continuent de faire face au changement climatique parce que le continent émet moins, bien sûr, mais continue, en tout cas, d'être touché de plus en plus par les changements climatiques.
Et dans cette même ordre de figure, aujourd'hui, comme vous le dites, les changements climatiques, comment l'aménagement urbain, d'ailleurs, peut-il intégrer la nature pour renforcer la résilience climatique des villes africaines?
C'est crucial, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Je vous donne juste un exemple pour ceux qui connaissent le Sénégal. Je sais qu'il y a beaucoup sur vos ondes et vos antennes, en tout cas, qui ont eu l'occasion de visiter le Sénégal. Vous prenez, par exemple, la zone des Niaï, vraiment très connue au Sénégal et y compris en Afrique, où aujourd'hui cet écosystème incroyable a été plus ou moins modifié par l'homme. Et aujourd'hui, les inondations sont de plus en plus intenses sur cette partie du Sénégal, qui concentre énormément de végétation, mais à force de modifier l'écosystème, de modifier en tout cas les activités, le système écologique qui s'y passe, bon, forcément, on cause davantage d'inondations. Je donne aussi l'exemple juste à côté, toujours dans la zone des Niaï à Ababacar.
Oui.
Vous prenez, par exemple, disons, Technopole, une zone merveilleuse d'écosystème à Dakar, mais aujourd'hui modifiée par des activités malheureusement industrielles et par la main de l'homme qui cause énormément de tort à cet écosystème. Et donc, il y a nécessité, comme vous avez eu à le dire, notamment dans votre question en réalité, on doit s'adapter. Et pour s'adapter, il y a lieu de ne pas étouffer en réalité ces zones-là, et écosystèmes qui nous permettent en fait, qui permettent aux villes africaines de respirer, mais aussi de maintenir la nature plus ou moins intacte dans un contexte de changement climatique de plus en plus intense. Vous avez récemment vu, par exemple, les inondations au Mozambique, au Nigeria, des inondations qui ont causé des milliers de morts. Et de plus en plus, ça s'intensifie. Donc, il y a lieu de s'adapter en réalité.
De s'adapter, de survivre, de s'organiser, Ibrahim, comme vous venez de le dire. Et dans ce cas de figure aussi, le rôle des citoyens aussi est important. Justement, quel rôle joue-t-il également, en parlant aussi des ONG, le secteur privé, dans la transition écologique des villes africaines?
Aboubacar, dans les pays africains, la plupart des pays africains, à défaut d'avoir un programme étatique qui permet de prendre en charge l'éducation environnementale, qui permet, qui ne prend pas en charge l'éducation environnementale, qui ne prend pas en charge certaines considérations citoyennes liées au changement climatique, ce sont ces associations-là qui jouent un rôle crucial à travers la sensibilisation, à travers des journées de nettoiement, mais à travers aussi les initiatives, disons, originales. Je peux vous citer, que vous connaissez sans doute, voilà, Dakar, quartier vert.
Oui, avec Tonton Vert et autres, entre autres.
Oui, lancé par exemple par Abdou Touré, qui est un Sénégalais, qui sur la base d'une terrasse, disons, entre guillemets, une terrasse verte, avec beaucoup de verdure, avec beaucoup d'enseignements qu'il faut tirer, il accueille des élèves parfois, pour initier ces élèves-là au comportement, disons, environnemental. Ça, par exemple, ça a l'air d'être minime, mais c'est crucial parce que, imaginez, conscientiser un élève, conscientiser une personne, c'est sauver la nature.
C'est sauver la nature et dans ce cas de figure également, comme vous le dites, ils sont pleins, ces acteurs, nombreux plutôt, à défendre l'environnement. L'exemple du Sénégal, à Dakar, comme vous venez de le dire, comment d'abord la capitale, confrontée à l'érosion côtière et aux inondations, adapte-t-elle son urbanisme face aux défis climatiques croissants?
Ça tombe juste votre question, Aboubacar. Vous savez pourquoi?
Oui.
Parce qu'il y a quelques jours de cela, je dirais même dans cette semaine où nous sommes, le ministre de l'Environnement a participé, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique du Sénégal a participé à un séminaire consacré aux questions écologiques, aux changements climatiques au Sénégal. Et il a révélé que le Sénégal est classé 32e au classement mondial des pays les plus vulnérables face au changement climatique. C'est une alerte, mais on le savait déjà, parce qu'il y avait déjà les faits qui sont visibles à travers les régions côtières. Aujourd'hui, vous allez sur la bande dakaroise, sur les côtes sénégalaises à Dakar, on n'a pas besoin de sortir de la capitale sénégalaise pour s'en rendre compte. Barni, une ville qui est complètement étouffée par non seulement les activités industrielles, mais aussi par les régions côtières. Vous allez à Rufisque aujourd'hui, des gens continuent de perdre du terrain face à l'érosion côtière, qui carrément continuent, disons, de gagner du terrain dans beaucoup de parties du Sénégal. C'est pas seulement à Dakar, vous allez aussi dans le sud du pays, en Casamance. Il y a aussi des zones qui sont concernées, touchées par l'érosion côtière, y compris dans le centre du pays. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, disons, n'est que la partie visible de l'iceberg par rapport à tout ce qui se passe peut-être dans d'autres pays sur le continent africain. Et il est urgent de prendre des mesures et d'adapter nos villes. Adapter nos villes, ça va être difficile, certes, parce que déjà, il y a peut-être, une territorialisation qui n'est pas peut-être au rendez-vous par rapport aux changements climatiques, aux effets des changements climatiques. Mais à partir de maintenant, il est urgent qu'on s'adapte, y compris dans les textes, dans les codes, qu'on puisse prévoir tous les comportements, toutes les attitudes susceptibles d'atténuer en fait les impacts des changements climatiques dans la construction. Et ça, je pense qu'il y a encore du chemin à faire.
Il y a du chemin à faire, donc, dans ce cadre et dans cet ordre d'idées qu'on venait de lire, Ibrahim. Aujourd'hui, la question également qu'on se pose, c'est quel enseignement tirer des projets pilotes ou programmes écologiques lancés au Sénégal pour inspirer d'autres villes africaines, notamment avec aujourd'hui la politique du nouveau gouvernement orientée vers également l'horizon 2050.
Oui, disons que c'est une vision qui est ambitieuse, qui prend en compte également les aspects liés au changement climatique. Par exemple, dans le programme présenté par l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, de nouvelles structures ont été prévues pour mieux prendre en compte certaines considérations liées au changement climatique, y compris dans l'enseignement, disons, des changements climatiques dans les écoles. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais qui méritent d'être, disons, renforcés, notamment parce qu'on a besoin, en fait, de connaître pour nos jeunes l'impact des changements climatiques, tout ce qui tourne autour des changements climatiques. Parce que l'éducation environnementale est d'abord la clé. Ça, c'est un aspect à prendre en compte. L'autre aspect qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que les changements, par exemple, les plans d'adaptation, bien, les contributions déterminées au niveau national. Après 5 ans de mise en œuvre, il faut évaluer à Babacar. Mmh. On a besoin d'évaluer, de savoir exactement qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment on doit mieux harmoniser l'ensemble des plans qui sont exécutés, qui concernent l'environnement. Par exemple, le Sénégal, il y a un nouveau régime. Il faut adapter les CDN ou la CDN du Sénégal en fonction de la vision, justement, vous l'avez dit tantôt, de cette vision 2050. Mmh. Parce que, en fait, c'était calé sur le modèle de PSE, plan Sénégal émergent de l'ancien régime.
Tout à fait.
Maintenant, après 5 ans d'exécution, il faut adapter. Et ça concerne, et c'est la plupart aussi, j'imagine que ça concerne également la plupart des pays africains où il y a souvent peut-être des perturbations liées soit à des changements anticonstitutionnels du pouvoir, soit une évolution normale du pouvoir. Mais il y a un nouveau régime qui arrive, il y a un plan qui a été mis en place, des plans même. Mise en place pour faire face au changement climatique et il faut s'adapter. Moi, je pense que la donne politique à Babacar est cruciale dans la mise en œuvre, dans l'exécution des programmes qui concernent l'environnement.
Et surtout également à l'heure actuelle où le changement climatique fait des efforts avec des températures records un peu partout dans le monde. L'Afrique n'est pas en reste et également l'Afrique aujourd'hui opte pour une politique résiliente, pour un développement durable, axé aujourd'hui sur la protection de l'environnement et du secteur climatique entre autres. Merci encore à vous cher Ibrahim pour ces éclairages. Comme toujours.
Merci à vous, Ababakar. C'est toujours un plaisir de parler écologie sur vos ondes et à bientôt.
À bientôt également à vous, chers amis auditeurs, pour la durabilité de cette confiance renouvelée. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro.